Nous l'avons dit tantôt en sommaire, en République démocratique du Congo, il arrive qu'une entreprise décide de fermer sans préaviser les employés, donc d'une manière brusque. C'est le cas de certaines entreprises minières opérant dans le Katanga. Conséquence, des milliers d'employés sont mis au chômage et même parfois sans décompte final. Que prévoit la loi lorsqu'une entreprise se retrouve dans cette situation? Nous allons parler avec Maître Dominique Kamandou de l'ONG Avocats sans frontières. Mais d'abord, on fait des points avec vous, Marcel Ngombo Mbala. Marcel, bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous.
Alors, dites-nous d'abord, que prévoit la loi lorsqu'une entreprise est en faillite?
Voilà, Gilles, comme vous pouvez bien l'imaginer, c'est un bon matin, comme ça, on se réveille et puis on vit, on ferme son entreprise. On dit qu'on n'a plus de sous, on n'a plus d'argent pour payer assez... ses employés. Il y a, en fait, la loi est très claire là-dessus. Donc, selon le juriste Noël Kilomba, qui est juge au tribunal de grande instance d'Ngili, à qui nous avons posé la question, il nous a dit qu'il a toute une procédure à suivre, une procédure qui sera sanctionnée par un jugement qui va déclarer la faillite de cette entreprise. Pour plus de détails, suivons le juge Noël Kilomba.
La faillite est réglementée par le décret du 28 juillet 1934. Et elle se définit comme l'état d'un commerçant qui fait ses paiements et dont le crédit est ébranlé. Alors, pour si l'entreprise soit déclarée en faillite, il y a des conditions. Il faut d'abord être commerçant, il faut qu'il y ait cessation de paiement, avoir un crédit ébranlé. Et effectivement, c'est le jugement qui doit déclarer la faillite, qui doit rendre un jugement constitutif. Et le tribunal doit être saisi par l'avis du commerçant, la requête d'un ou plusieurs créanciers ou le ministère public. À partir du moment où le jugement est prononcé déclarant la faillite, un jugement constitutif, eh bien le tribunal va nommer un curateur, un ou plusieurs curateurs qui vont s'assurer de la gestion du faillite. Effectivement, comme je vous ai dit, que la conséquence, il y a des effets de la faillite, c'est quoi? Lorsque la faillite est déclarée, il y a le dessaisissement intégral du commerçant. C'est-à-dire qu'il n'y a que le curateur qui va maintenant s'occuper de la gestion de toutes les affaires et des travailleurs et de tout le monde.
Voilà, le curateur, nous allons parler d'ailleurs avec Maître Dominique dans quelques instants. Nous allons parler d'ailleurs, Marcel, le vendredi dernier, de cette vague de fermeture des entreprises minières dans le Katanga. Est-ce que l'État a une part de responsabilité dans la faillite de ces entreprises?
Dans les cas précis du secteur minier, hier, vous savez, il y a eu toute une vague d'investisseurs qui, à un moment, ont profité de la hausse du prix des certains minerais sur le marché pour se lancer dans ces secteurs. Et aussitôt que le prix a baissé, c'était la débandade pour certains opportunistes, comme le souligne Maboy Ayenga, coordinateur du processus de Kimberley au ministère de Mines.
J'aimerais quand même qu'on fasse un distinguo lorsque vous parlez des entreprises minières. Vous avez les entreprises minières, disons, qui sont des entités de transformation et de traitement. C'est ce qu'on appelle ceux qui traitent l'hétérogénite pour faire dans les cubilots et puis expédier le cuivre noir et tout ça. Puis vous avez les vraies entreprises minières, les majors, les BHP, les Kenkefungurume, celles-là. Celles-là subissent évidemment la difficulté qu'il y a au niveau international, mais elles sont toujours présentes. Elles discutent avec nous. Ceux qui sont partis, ce sont ceux qui ont fait surtout l'économie de la cueillette, les handpicking, les Chinois, tout ce monde-là qui ont, disons, sont venus installer des cubilots, des histoires, et puis dès que le prix a diminué, ils sont partis. J'aimerais maintenant vous parler un peu, lorsque vous regardez le prix aujourd'hui, le prix du cuivre aujourd'hui, il est à 3 000 $. Les analystes internationaux pensent que c'est un prix extrêmement attrayant pour l'industrie du cuivre. 3 000 $, si vous repartez à 15 ans, c'est ce que, à un moment donné, nous avons subi ici au Congo. Et à ce moment-là, la Gécamine et les autres sociétés produisaient du cuivre, la cathode, tous les produits à 3 000 $. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à 3 000, la moitié de ces gens s'en vont?
Voilà, il s'agit là de M. Mabolia Yenga, coordinateur du processus de Kimberley, qui intervenait dans notre émission du vendredi dernier et qui a apporté peut-être ses précisions. Et dans bien des cas, Marcel, lorsque l'entreprise ferme, les travailleurs ne trouvent pas leur compte.
C'est ce qui arrive souvent, malheureusement, mais parfois il y a des employeurs qui ne renvoient pas tous les personnels, mais qui pensent plutôt au dégraissement, tout simplement pour faire face à une situation situation économique est difficile. On en a parlé dernièrement avec la générale de mines du Congo dans le Maniema, la Gimico en sigle. Il y a eu assainissement au sein de cette entreprise et les victimes réclament leurs arriérés de salaire, les dépenses finales, et aussi le rapatriement pour certaines personnes recrutées en dehors de Kindu. Là également, les victimes des personnes qui ont été assainies veulent bien qu'on tienne compte de tous leurs droits. On écoute leur réaction au micro de notre confrère Toumba Mobile.
Nous réclamons les arriérés de nos salaires qui varient de 1 à 5 mois selon les cas, plus les décomptes finales. Nous avons également besoin de l'attestation des fins de service et particulièrement pour nos collègues recrutés en dehors du Kindu. L'employeur a gardé nos contrats dans l'espoir de les faire viser à l'inspection du travail, chose qui n'a jamais été faite. Toutefois, nous gardons encore dans nos archives les documents attestant notre prestation au sein de la société. Je vous remercie.
Et pourtant, le ministre du Travail est revenu par plusieurs fois sur cet aspect dégraissage du personnel. Il n'en était pas question par rapport à cette crise. Il fallait trouver peut-être intérêt d'entente entre l'employé et l'employeur si jamais l'entreprise se trouvait dans cette situation, Marcel.
Et ce qui doit être en principe le cas hier, et on doit encore le rappeler, notamment pour ce qui est arrivé aux entreprises minières, l'État n'était pas vraiment regardant par rapport à tous ceux qui venaient investir dans le pays. On pourra prendre l'exemple de tous ces entrepreneurs chinois qui avaient à leur service beaucoup de travailleurs mais sans contrat, et aussitôt que ces Chinois sont partis, la situation est devenue compliquée pour tous ces employeurs.
Voilà, Marcel, on va s'arrêter là afin d'accorder la parole à nos invités, Maître Dominique Kamandou, de l'ONG Avocats sans frontières, ainsi qu'Henri-Joseph Malangi, inspecteur du travail au ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale. Merci et bonne semaine.
Merci, Gérard.
Okapi mama, kati mbaka okapi, c'est moi qui vous viens de bien. Bon, pour les émissions, il y a bien tout mon bisal bien sûr, nous dit tout. C'est dans l'éloi du tombeau d'Akatia. Malo a dit, bana ben ben. Di, tabayi na ban. Makanda a dit que le texte qui est mis en Yamukong. Okapi mama, nous sommes l'éloi magine et nous sommes l'éloi. Okapi mama, bon, pour nous s'agirait bien. Kukwa zongu kimwa, toni mugitani. Kajipa jamu jalamu, toni jipa jamu jingabaka kasa, mshina yasa kutasa. Jipa jamu sendemu, toni jipa jamu ibamu lolo kuwesta. Kukapi mama, situ, baba mamu, kasa.
Nous avons en ligne Maître Dominique Kamandou, de l'Union Avocats sans frontières. Maître, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, vous avez suivi le point que venait de nous faire Marcel Ngombo. On observe, ces derniers temps, la fermeture brutale, brusque même, de certaines entreprises minières qui déclarent déjà faillite. Cette façon de faire inquiète plus d'une personne. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement si une entreprise peut fermer sans préaviser ses employés?
Merci beaucoup, Gilles. Je vais d'abord souligner qu'on doit faire la part des choses entre la situation d'une entreprise en faillite et la situation d'une entreprise confrontée à une conjoncture économique difficile. En ce qui concerne la faillite est la situation d'une entreprise ou d'un commerçant qui a cessé ses paiements, c'est-à-dire des cessations de paiement, et dont le crédit est ébranlé, c'est-à-dire que l'entreprise n'arrive pas à maintenir l'équilibre de sa balance. Et en plus de cela, l'entreprise ne sait plus faire face à ses charges habituelles d'exploitation et n'a plus les crédits de ses partenaires financiers pour pouvoir obtenir, par exemple, des crédits ou des fonds nécessaires pour la relance des...
Voilà, Maître Dominique, là vous sortez entrecoupé, si peut-être vous pouvez changer de position.
Ah bon.
Allez-y.
J'ai dit que la faillite, c'est d'une entreprise qui n'a à maintenir.
Ou carrément sortez de là où vous êtes, parce que là, on a vraiment des sérieux problèmes de communication. Voilà. Voilà, donc le temps que vous changez de position, nous rabattons maintenant sur M. Henri Joseph Malangi, inspecteur du travail au ministère de l'Emploi et Prévention sociale. M. Henri, vous êtes avec nous? Alors, aujourd'hui, on a remarqué successivement la fermeture de plusieurs entreprises minières. Et pourtant, le ministre du Travail et Prévention sociale avait demandé aux employeurs de pouvoir trouver un terrain d'entente avec ses employés pour éviter qu'il y ait des dégraissages du personnel en cascade.
Si le ministre a intervenu dans cette situation, parce que l'article 80 du Code du Travail, paragraphe 2, dit ceci, que sauf en cas de force majeure, la cessation d'activité de l'entreprise ou de licenciement ne dispense pas l'employé de respecter les règles prévues en matière de la résiliation des contrats. Donc ça veut dire quoi? L'employeur, à l'article 62 du Code du Travail, dit que les contrats à durée indéterminée ne peut être régié à l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié au travail, à l'aptitude, au conduit des travailleurs. Donc ça veut dire que le ministre du Travail, s'il intervient, parce que les entreprises doivent respecter la loi, la fermeture n'est qu'un motif, mais cela ne dispense pas de payer les droits aux travailleurs. Vous comprenez?
Oui.
Donc les employeurs sont obligés de respecter la loi, du côté légal et réglementaire. Donc, la loi dit que la partie qui prend l'initiative de régime de contrat doit notifier l'autre partie. Donc, ça dit qu'ils notifient l'autre partie parce qu'ils sont tombés en faillite et qu'ils déclarent la fermeture. Donc, il y a les créanciers privilégiés. Ce sont les travailleurs. C'est ça qui dit la loi. C'est pourquoi le ministre du Travail est en train d'insister pour cela. Que les employés arrivent quand même à respecter la loi, à respecter les procédures légales et réglementaires en matière du travail.
Oui, mais malgré les mots d'ordre, malgré les instructions du ministre, on a remarqué au niveau de Katanga que cette décision n'a pas été respectée. Les entreprises ont fermé et aujourd'hui, certains travailleurs ne font qu'attendre l'heure des comptes finales.
Mais qu'est-ce que nous remarquons, nous autres, ici? C'est mieux que nous remarquons qu'il y a fermeture pendant que certaines entreprises ne déclarent même cette fermeture. Parce que si la fermeture a été déclarée au niveau du travail, ça nous mène les inspecteurs de descendre pour connaître ce qu'ils ont fait avec les travailleurs après leur fermeture. Donc c'est pourquoi on parle de notification, on notifie les agents tout avant. Et si on fait la déclaration au niveau du travail.
Oui.
Alors, quand on fait la déclaration, on notifie chaque travailleur pour qu'il sache que mon contrat est résilié suite à la fermeture.
Alors, nous prenons un exemple parce que c'est par rapport à vos propos. Est-ce que l'inspection du travail au ministère de l'Emploi et Prévention sociale est au courant de la fermeture, de l'assainissement qui a eu lieu dans l'entreprise Gemico à Kindu?
Oui, Gemico, il y a l'inspecteur, l'inspecteur local. Donc, au niveau, il y a le code de ressort qui est sur place là-bas. Je suis sûr qu'ils étaient au courant de quelque chose et ils devaient respecter, suivre pour savoir ce qui s'est passé au sein de l'entreprise.
Alors, quelles sont les entreprises minières qui ont notifié, qui ont signalé quand même leurs difficultés auprès du ministère du Travail et qui envisagent peut-être d'intéresser le personnel dans les jours qui viennent?
Bon, l'unique cas que je connais, c'est le cas de Madson, où j'ai vu un inspecteur en train de faire les calculs de compte final. On devait payer aux agents de l'intérieur, que ça soit occidental, je crois. Je connais de mes collègues qui est allé là-bas, et puis il a fait son travail. Oui. Il n'y a pas eu de problème.
Alors, il y a Maître Dominique Kamandou qui est avec nous, qui est encore avec nous. Maître Dominique, vous parliez de cette différence entre une entreprise en situation économique difficile et une entreprise en faillite, et c'est là où on était. Maintenant, vous êtes encore avec nous?
Effectivement, je suis en train de vous suivre.
Alors, quelle est la différence, si vous pouvez encore revenir sur ça, l'entreprise qui est en situation économique difficile et celle qui est en faillite?
Oui, je disais que la faillite, c'est l'état d'une entreprise ou d'un commerçant qui a cessé ses paiements et dont les crédits étaient branlés. C'est-à-dire que l'entreprise n'arrive plus à faire face aux charges d'exploitation, n'arrive plus à maintenir l'équilibre au niveau de sa balance de paiement entre l'actif et les passifs. Et pour ce faire, l'entreprise ne réalise plus de crédits et a perdu toute confiance. Et dans ces cas, la loi prévoit que l'entreprise ou le commerçant concerné puisse faire une déclaration de sa situation au niveau du tribunal. Et à ce moment-là, on ouvre la procédure de faillite et on va désigner un curateur. Et dès le moment où le jugement est prononcé, certaines dispositions sont prises par le tribunal pour garantir les droits des uns et des autres. Et en ce qui concerne la situation d'une entreprise en situation économique difficile, c'est-à-dire qu'une entreprise peut faire face à une conjoncture économique qui ne lui permet pas de continuer à supporter toutes les charges, c'est-à-dire qu'il demande par exemple que l'entreprise puisse procéder à une diminution de son activité ou même à suspendre momentanément ses activités lorsque un cas de force majeure peut surgir. Dans ces derniers cas, lorsque l'entreprise est appelée à suspendre les activités pour une situation de force majeure, on se rend compte que même le contrat de travail qu'il a avec les différents employés, ces différents contrats, connaissent aussi une situation de suspension. Mais l'entreprise ne peut pas faire ça d'autorité d'elle-même. La situation de la force majeure doit être constatée par l'inspecteur du travail. Et à ce moment-là, les autorisations requises sont données et on suspend le congé ou le contrat des employés. Et lorsqu'on doit mettre fin au contrat des employés, à ce moment-là, l'entreprise doit avoir l'autorisation du ministre du Travail après avis de l'inspection pour procéder au licenciement collectif dans une situation de conjoncture difficile. Mais cela n'exonère pas l'entreprise de payer les droits des travailleurs enfin en situation de fin de contrat, c'est-à-dire payer les décomptes finaux, délivrer un certificat de travail. Donc c'est ça la différence entre les deux situations.
Oui, dans l'un ou l'autre cas, nous avons compris la procédure à suivre. Mais si jamais l'employeur ne respecte pas cette procédure, il y aura déjà un litige entre l'employeur et l'employé. Quelle est l'instance judiciaire habilitée à trancher ce genre de litige?
Merci beaucoup, Gérard. Devant une pareille situation, les employés ou les personnes qui sont préjudiciés par cette attitude de l'employeur, en ce qui concerne les travailleurs particulièrement, ils doivent saisir d'abord l'inspection du travail. Ils doivent se plaindre au niveau de l'inspection du travail pour que l'inspection du travail puisse faire la procédure de conciliation préalable, essayer de proposer des solutions aux parties en conflit. Et lorsque cette procédure n'aboutit pas à une conciliation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas accord entre les deux parties, à ce moment-là, l'inspecteur du travail dresse le procès verbal de non-conciliation qui va permettre au travailleur ou à la partie lésée de pouvoir saisir les tribunaux. Dans le cas d'espèce, la loi a mis en place les tribunaux de travail, mais qui ne sont pas encore installés, mais c'est les tribunaux de grande instance devant la chambre du travail, des matières du travail qui continuent à être compétents pour ce genre de litiges.
Oui, alors, parce que là, nous avons parlé du travail de curateur. Celui-ci va faire concrètement quoi quand il est désigné après le jugement pour constater la faillite?
Effectivement, le curateur va essayer de faire l'analyse de la situation de l'entreprise. Il va essayer de procéder à la gestion courante de l'entreprise. Dès que le curateur est désigné et qu'il y a un jugement déclaratif, les structures ou organes statutaires de la société cessent de poser tous les actes. Et tous les actes de gestion courante de la société en ce qui concerne la liquidation sont posés par le curateur. Donc c'est le curateur qui va essayer de recouvrer, par exemple, les créances de la société. Et c'est lui qui va essayer aussi pendant ce temps de payer les dettes de la société vis-à-vis, par exemple, des travailleurs qui doivent obtenir le paiement de leur décompte final et tous leurs droits.
Est-ce que le jugement détermine aussi les délais du travail du curateur?
Pas nécessairement, parce que la procédure de faillite, c'est une procédure qui prend parfois beaucoup de temps et une procédure complexe. Dans la plupart des cas, les tribunaux ne déterminent pas la procédure et ne déterminent pas le délai.
Et pendant tout ce temps que le curateur analyse la situation, est-ce que le contrat du travail a encore sa valeur juridique?
En principe, dès que l'entreprise cesse de fonctionner, le contrat est suspendu de part et d'autre. Donc, le contrat n'est plus exécuté. Mais jusqu'à la période, au moment où on va procéder au paiement des soldes de tout compte et on va remettre les certificats de fin de service aux travailleurs, et cela va séparer définitivement les deux parties.
Alors, au cas où, pendant cette période de travail du curateur, on constatait qu'il n'y avait pas effectivement la faillite, qu'adviendra-t-il?
S'il n'y a pas de faillite, cela peut être considéré comme une fausse déclaration de l'entreprise pour pouvoir échapper au fisc et échapper à certaines de ses obligations. La loi prévoit
des sanctions.
Des sanctions pour l'entreprise qui fait des fausses déclarations. Et même les organes statutaires, il y a même des frais infractionnels qui peuvent être retenus à charge des dirigeants de l'entreprise.
Est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur ces frais? Ça tourne à peu près autour de combien? Et quelles sont les sanctions réellement prévues?
Les sanctions, il y a des sanctions, par exemple, pour des cas qui peuvent être considérés comme des banqueroutes et autres, des fausses déclarations. Et s'il y a des cas, des faux en écriture qui sont commis par l'entreprise pour falsifier les données dans sa comptabilité, donc cela peut être poursuivi du chef de plusieurs infractions, dont certaines peuvent aller jusqu'à 5 ans ou plus de servitude pénale, c'est-à-dire de prison.
Donc si je comprends bien, le curateur doit avoir une expertise économique très poussée.
Effectivement, le curateur doit avoir une expertise et le curateur peut même recourir à un audit extérieur.
Un audit extérieur. Et tout ça, s'il faut même engager un audit extérieur, ça engagerait peut-être des frais. C'est à qui reviendra cette responsabilité?
En principe, les frais sont supportés par la société concernée.
Une société qui est déjà en faillite?
Oui, mais la société est en faillite, mais la procédure de la faillite exige, certains frais exigent que le travail continue, puisse continuer à être fait. Parce que même les curateurs, ils ne travaillent pas de manière bénévole, il doit être rémunéré.
Voilà, alors nous tournons du côté de M. Henri Joseph Malagi, inspecteur du travail au ministère de l'Emploi et Prévention sociale. M. Henri, vous venez de suivre Maître Dominique, qui intervenait sur cet aspect de procédure juridique à suivre. On se rend compte que l'inspecteur du travail a vraiment le gros du travail à faire. Aujourd'hui, en tout cas à travers le pays, on parle par rapport à cette crise financière, la fermeture de plusieurs entreprises. Et là, on a comme l'impression que le ministère du Travail n'est pas informé de tout ce qui se passe au niveau des provinces, parce que vous venez de nous dire qu'il y a une seule entreprise, à votre connaissance, qui vient de fermer. Mais pourtant, au Katanga, on en parle plus d'une dizaine.
Oui, je disais qu'il y a plusieurs entreprises. Mais l'entreprise que je maîtrise, dont un de mes collègues avait le dossier entrepreneur, c'est Amazon. C'est pour cette situation. Donc, toutes nos entreprises nous surprennent. Et quand nous venons, les travailleurs venir réclamer au niveau de l'inspection du travail, quand ils viennent se plaindre, là où parfois on sait que non, il y a un cas de fermeture, il y a un cas de ceci, cela. Mais il y a ceux-là qui viennent officiellement déclarer leur fermeture. Là, l'inspection est obligée de descendre pour examiner les cas et chercher de bons moyens pour trouver une solution. Mais il y a des cas qui nous échappent. Donc, il y a le non-respect de la loi par certaines entreprises. C'est ça le problème.
Alors, si on est arrivé à une telle situation, pour certains observateurs, le ministère du Travail n'a pas été vraiment regardant. C'est vrai qu'il y a eu des instructions qui ont été données, mais il n'y a pas eu suivi, il n'y avait pas eu de mécanismes mis en place pour éviter ce genre de désagrément.
Le ministère ne peut être informé que quand il y a un conflit.
Mais s'il y avait un suivi,
quand il y a un conflit, mais le ministère ne peut être informé que quand il y a une déclaration faite par l'employeur, soit par les employés. Le ministère ne peut être informé que quand il y a des centres, par exemple, dans une visite d'inspection, on découvre que telle entreprise n'existe plus, ou que notre entreprise a des conflits, il y a des travailleurs qui sont dehors. C'est à partir de cela où le conflit reste. Que le ministère commence à s'assurer sur le problème. Pour bien lui-même, il n'est pas découvert que non, dans telle entreprise, il y a telle ou telle difficulté. Il faudrait que l'entreprise déclare sa fermeture pour que les agents viennent au niveau de la de Michel Travail pour nous informer que voilà, dans notre société, il y a telle ou telle situation.
Oui, oui, monsieur Henri, au cours d'une année, combien de visites d'inspection effectuez-vous concrètement?
Bon, les visites d'inspection, c'est notre routine. Pour chaque inspection de ressort, il faut à chaque inspecteur au moins 10 rapports de visite par mois.
Mais si tel est le cas, les entreprises n'allaient pas vous surprendre, comme c'est le cas aujourd'hui, au Katanga par exemple.
Bon, au Katanga, c'est à cause de cette difficulté économique, ce problème économique au niveau mondial, où la plupart sont des sociétés minières.
Voilà, M. Henri Joseph Malanzi, pour maintenant pallier cette situation, que prévoit le ministère du Travail et Prévention Sociale? Que comptez-vous faire? Parce que là, nous risquons, si on n'arrête pas cette hémorragie, on risque de se retrouver avec un taux de chômage très élevé.
Bon, plus que les sociétés naissent, plus qu'il y a les sociétés qui ferment. Parce que si la société est en difficulté, il est en droit. Tu trouves qu'il est tombé faillite, il est en droit de fermer. Mais il est question maintenant, c'est l'inspection du travail. Quand la société est claire, il est en difficulté économique, il est question maintenant à l'inspection qui aille maintenant mener les enquêtes et chercher à savoir si réellement cette société est en difficulté ou pas. C'est ça le problème.
Donc,
alors, si nous sommes au courant, si les déclarations faites par le, comme disait l'avocat, si la déclaration faite par la société est fausse, la société est poursuivie, par les travailleurs. On établit le PV de non-conciliation pour permettre aux intéressés de saisir le cours de tribunaux.
Voilà, M. Henri Joseph Malanzi, nous rappelons que vous êtes inspecteur du travail au ministère de l'Emploi et Prévention Sociale. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Voilà, nous tournons du côté de Maître Dominique Kamandou. On va également clore cet entretien avec Maître Dominique. Maître, vous êtes avec nous. Donc, on retient une chose, que effectivement, avant d'atteindre le tribunal, tout doit partir du ministère du Travail.
Effectivement, avant d'arriver au tribunal, les travailleurs doivent d'abord se plaindre devant l'inspection du travail.
Voilà, Maître Dominique, merci d'avoir été des nôtres également. Et nous rappelons que vous êtes de l'ONG Avocats sans frontières, mais si jamais certains employés qui se trouveraient victimes de cette situation aimeraient bien entrer en contact avec vous, nous ne pouvons pas avoir encore l'adresse de boutique de droit.
Merci beaucoup, Gère. Notre boutique de droit est située sur le boulevard Lumumba, à la place des Eucalyptus, à l'Enjili. À côté de l'immeuble Apocalypse. Donc, les avocats sont disponibles pour donner des conseils et des orientations juridiques gratuitement à toutes les personnes qui les désirent.
Merci, Maître Dominique Kamandou, et nous rappelons que vous êtes avocat à l'ONG Avocats sans frontières.
Merci.